Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les quatre drôles de dames, comme tous les lundis soirs, Johan Crochet, Paulo Breitner, Fred Armel et Julien Laurence, à 4 jours du coup d'envoi de l'Euro 2024 en Allemagne. Tiens, je vous rappelle justement que RMC vous envoie en Allemagne pour assister à tous les matchs de l'équipe de France. Nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Düsseldorf, vol et hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match et bien sûr vos deux places pour France-Autriche le 17 juin. Dès que vous entendez cette alerte-là, vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 732-16, Euro au 732-16, hein, vos places pour France-Autriche qui se gagnent uniquement sur RMC. Alors Julien, l'Angleterre, t'en as parlé vendredi soir largement, battue par l'Islande 1-0 pour son dernier match de préparation. Et à 14 jours, c'était vendredi soir, de son premier match de l'Euro contre la Serbie. Dans les heures qui ont suivi, une partie de la presse anglaise a ciblé un homme, a posté une photo, le même homme, toujours en une, le visage de Bukayo Saka.
Ouais, c'est vrai. Donc c'était une façon finalement de pointer le doigt sur Bukayo Saka alors qu'il a joué que 25 minutes puisqu'il est entré en jeu à la 65e minute d'un match qui est, où en Angleterre avait déjà pris un but, était déjà mené, était déjà pas très forte avant qu'il entre en jeu. Il est entré en jeu, ça n'a rien changé. L'Angleterre n'était pas meilleure, n'était pas pire. C'est comme ça. Donc il a absolument son entrée finalement n'a eu aucun impact sur la rencontre ou quoi que ce soit. Et pourtant, dans une forme un petit peu de racisme caché, on va dire, c'est lui qui a semblé prendre très cher puisqu'il était effectivement sur toutes les unes de fin de journaux puisque c'est là où sont les pages sportives en Angleterre, les back pages. Comme malheureusement depuis la finale de l'Euro 2021 et son penalty raté contre l'Italie en finale, un peu trop régulier, je trouve, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Donc là, pour une fois, c'est monté très très haut, une grosse polémique. Lewis Hamilton, Ian Wright, par exemple, sont montés au créneau pour défendre Bukayo Saka, qui lui n'allait pas dire quoi que ce soit. De toute façon, je pense que malheureusement pour lui, il a l'habitude, le pauvre. On a parlé souvent du pouvoir, de la puissance des médias en Angleterre, notamment des quotidiens nationaux, des tabloïds notamment, mais pas simplement. On a quand même lu des titres en même temps que au-dessus de la photo de Bukayo Saka, comme Black Ice par exemple, qui en lui-même parle d'un trottoir glacé par exemple, ou d'une route glacée, mais qui dans ce contexte-là a une connotation quand même qui est très très négative, faut le reconnaître. Ian Wright par exemple qui dit bah voilà, c'est maintenant qu'il faut montrer beaucoup d'amour et de soutien à tous ces jeunes joueurs là, pas que Bukayo Saka, mais tout le monde. On sait très bien ce que les journaux font, on sait très bien.
Quels journaux, c'est quoi, The Sun, The Telegraph, c'est des journaux quoi qui sont ouvertement racistes
oui,
ou pas,
dis-nous,
ou alors ils sont populistes et ils veulent pointer du doigt un joueur en particulier et noir en priorité, quoi.
Oui, alors un peu tout ça. Je pense que le Télégraphe est un journal de droite. Le Sun, on connaît aussi, hein, c'est pareil. Le Daily Star, qui est un des tabloïds les pires, sincèrement, qui est assez populaire dans le nord de l'Angleterre et pas trop dans le sud, est un peu fait partie un petit peu de la même catégorie que le Sun aussi. Le quatrième, c'était le site de la BBC.
Ça ressemble pas à la BBC, ça. Ouais, mais...
Non, exactement. Je sais pas si.
Mais peut-être une maladresse parfois aussi. Ouais,
voilà. Voilà, peut-être plus. Mais en plus, on ne sait pas vraiment si c'est une coïncidence finalement. Ça a l'air de pas être une coïncidence non plus parce que ça avait quand même. Je crois que là j'en ai nommé 4, mais il y en avait un 5e aussi. C'est pas la première fois non plus quand l'Angleterre perd. C'est un petit peu ce que disait Ian Wright une fois à la télévision. Quand l'Angleterre gagne et que Saka joue bien, bah il est anglais, tout le monde est content. Quand l'Angleterre perd et que Saka joue pas bien, il est noir. Et malheureusement, je trouve que ce relent-là est un petit peu trop fréquent. Et en tout cas, vendredi soir, ça a beaucoup beaucoup fait parler.
C'est croissant chez toi en Angleterre ou pas? Est-ce que les joueurs noirs de la sélection anglaise ont toujours été traités différemment? Ou est-ce qu'il y a une sorte de relent raciste systémique?
Alors, systémique, non. Enfin, ça dure pas depuis 20 ans. Mais oui, il y a toujours eu des problèmes. Les Anglais se sont très longtemps voilé la face. Mais quand John Barnes jouait, on lui jetait des bananes quand même. Quand il jouait pour l'Angleterre, dans les stades anglais. Donc ça remonte effectivement aux années 80, c'est il y a longtemps. Mais le pauvre John, il s'en est toujours pas remis. Et voilà, donc parfois c'est plus fort que d'autres, effectivement. Ce qui s'est passé après la finale de l'Euro, ce que Sancho, Rashford et Saka ont subi, ont souffert, c'était inacceptable, bien sûr. Mais Ian Wright a aussi souffert de racisme dans les clubs, dans les stades anglais, que ce soit avec l'équipe d'Angleterre ou pas. Donc ça a toujours été là. Le pauvre Raheem Sterling a pris très très cher parce qu'il a un tatouage. Alors c'est peut-être qu'il a mal choisi un tatouage avec une arme dessus. Je sais pas, il fait ce qu'il veut sur son corps. Bien sûr. Donc voilà. Donc effectivement, le traitement de joueurs blancs et le traitement de joueurs noirs, malheureusement en Angleterre, a depuis longtemps fait débat, grosse polémique souvent. Et j'ai peur qu'on ne soit pas prêt de s'arrêter, malheureusement.
Bon, voilà pour ce sujet. On va suivre ça aussi pendant l'Euro. Tiens, Johan, l'Italie débutera le samedi contre l'Albanie avant de jouer l'Espagne, puis la Croatie, ces fameux groupes de la mort, celui du tenant du titre. Donnarumma sera titulaire, évidemment. Ce soir, tu voulais dire stop au Donnarumma bashing. Mais y en a-t-il un en Italie comme il y en a un?
Non.
En France et au PSG surtout?
Non, c'est plus lié à la France. Parce qu'en Italie, il y a évidemment des consultants, des anciens joueurs, qui vont, même des supporters, hein, qui vont trouver que... Ce qu'on dit parfois en France, c'est ce qu'il faut reconnaître, c'est-à-dire qu'il doit s'améliorer dans le jeu au pied, que dans les sorties aériennes ça va pas, et que pour l'instant on voit pas d'amélioration, et donc il faut travailler, il faut qu'il trouve quelqu'un pour travailler sur ses défauts, ça c'est clair. Et que à chaque fois qu'il y a une boulette, mais c'est le cas de plein de gardiens, quand il y a une boulette, bah on va la repasser 50 fois, et puis on va dire ah ouais quand même, c'est un peu le cas Neuer quoi. Neuer, il fait un super match contre le Real, à la fin le but il est pour lui, puis on dit ah ouais Neuer super, la boulette 38 ans, faut peut-être arrêter. Bon, Donnarumma, il a ce traitement-là, notamment en France, que j'ai du mal à comprendre ou à expliquer.
Il n'y a pas de différence de performance entre ses apparitions avec la nationale et après, bon, il joue plus de matchs, donc il est plus à risque au PSG.
Ouais, c'est ça.
Par
après,
définition.
Moi, j'ai vu Donnarumma faire des très bons matchs avec des champions, en Ligue 1 et avec la nationale, et donc je pense pas que ça vienne de ça. Ça serait trop facile, sinon, parce que parfois même. Dans les débriefs en France, j'entends dès que Donnarumma fait un dégagement au point qu'il n'aurait pas dû faire. Ah bah voilà, Donnarumma, alors que peut-être que c'est juste le geste qu'il fallait faire. Je rappelle quand même qu'il a été élu meilleur gardien du dernier Euro gagné par l'Italie, meilleur joueur du dernier Euro, qu'il a été important dans le titre gagné par la nationale et qu'il a été important dans les tirs au but. Que là, si on prend les matchs de préparation, encore une fois, là où ça tangue un peu en défense, que ça tangue un peu en attaque sur des occasions, bah lui, il tangue pas. Il a fait 4 arrêts très importants lors des 2 matchs, cumulés, hein, 4 en tout. Il est déjà prêt dans son Euro. Cette saison encore, si on regarde un petit peu les chiffres en championnat, il est le deuxième gardien sur les expected saves, ou en tout cas sur les buts évités, pour prendre une traduction française, dans les 4 grands championnats européens, plus la Ligue 1. Donc c'est le deuxième meilleur total. Si on reprend ça, ce chiffre-là, rapporté au temps de jeu, il est numéro 1 en Europe. Mais ça, c'est pas des chiffres qu'on entend, parce que bah, déjà, il faut s'intéresser aux chiffres. Et en France, on a un peu de mal avec la data. Et ensuite, il faut surtout pas dire des bonnes choses de Donnarumma. Donc, on va éviter de dire ces bons chiffres-là aussi. Si on regarde aussi en Ligue des Champions, on dit ouais, il sort jamais de sa ligne, etc. En Ligue des Champions, si on prend les gardiens qui ont passé la phase de groupe, parce que sinon, c'est un peu trop facile, ont moins de matchs d'avoir un meilleur ratio. Mais c'est le deuxième gardien, enfin, il fait partie du top 4, pardon, des gardiens qui sortent le plus de sa surface pour anticiper des occasions, même pour du jeu au pied. Donc il le fait aussi.
Oui, mais est-ce que les stats ne racontent pas aussi? C'est l'autorité qu'il peut avoir dans sa surface de réparation, ou moins avoir parfois.
Qui doute de l'autorité de l'assurance de Donnarumma aujourd'hui?
Je sais pas, Julien, toi qui est supporter du PSG notamment. Moi, je suis entouré de supporters aussi à la rédaction du PSG qui sont bien plus critiques que toi, Johan, et que les observateurs italiens concernant Gigio. Julien, t'en penses quoi, toi? Tu trouves qu'il dresse un portrait un peu idéal, idyllique?
Non, parce que je dresse pas de portrait idyllique vu que j'ai dit qu'il avait plein de points améliorés.
Oui. Ouais, moi je suis comme Johan en fait. Je pense qu'il a gagné des matchs à lui tout seul cette saison pour le PSG. À Reims notamment par exemple. Enfin, il y a des matchs où il est exceptionnel. Il y a d'autres matchs où il est passé au travers, notamment effectivement sur les sorties aériennes. J'ai du mal à comprendre finalement comment il peut pas progresser à son âge maintenant sur ce genre de moments de match là. Parce que à un moment tu identifies une faiblesse, tu travailles sur cette faiblesse là pour qu'elle soit plus une faiblesse et qu'elle devienne pas forcément même une force ou un atout, mais simplement que tu sois plus faible à ce niveau là. Et j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup progressé dans le jeu aérien sur les 2 dernières saisons par exemple. C'est ça qui me gêne un tout petit peu. Après, moi j'adore sur sa ligne, j'adore ce qu'il peut dégager, mais sur les sorties aériennes j'ai du mal. Oui, effectivement, que le PSG cherche peut-être un autre gardien ou à le mettre en concurrence, pourquoi pas, mais sur sa ligne tu trouveras pas beaucoup de gardiens qui sont bien meilleurs que lui cette saison
sur sa ligne. Voilà pour le coup de gueule de Yvan Crochet.
Moi j'ai jamais compris en quoi il était plus fort que Keylor Navas pour le PSG.
Ah,
Enfin, tu vois, pourquoi ils ont fait venir
histoire contrariée
Donnarumma alors qu'il y avait Keylor Navas qui venait de rentrer
parce qu'il était libre, parce qu'il sortait d'un Euro, il avait terminé meilleur joueur de l'Euro aussi, parce que c'était l'idée de Leonardo, on le rappelle, hein, effectivement. C'était une opportunité de marché importante quand même, hein, d'attirer Donnarumma libre, gardien de la nationale, meilleur joueur de l'Euro. A posteriori, certains peuvent le regretter. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'a rappelé Julien, on va suivre ça en début de saison ici en Ligue 1, c'est qu'il sera peut-être mis en concurrence. Hein. En tout cas, ce qu'on annonce au PSG.
Juste quand on parle de leadership, il est capitaine de la Nationale,
oui,
il est vainqueur de l'Euro.
Mais pour l'instant, on ne le voit pas trop. Peut-être qu'il a encore du mal à s'émanciper.
Il n'était pas lors du dernier Euro, mais il est du dernier Euro, mais il est capitaine maintenant.
Bon, voilà pour Didier Donnarumma. C'est l'heure de la première minute de la soirée. Elle est pour Paulo Breitner. On envoie la musique, Toto. Magnifique. Allez-y.
Bon, on nous a dit qu'on pouvait choisir un peu, on nous a autorisé à mettre un peu musique qu'on voulait. C'est pour moi la plus grande musique, chanson qui a été écrite, les Stooges évidemment, Iggy Pop avec I Wanna Be Your Dog, Je veux être ton chien. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette chanson sur laquelle j'ai un petit peu dansé aussi? C'est tout simplement parce que j'ai appris que Fabian Hürzeler était en négociation apparemment avec le club de Brighton pour remplacer De Zerbi, que le coach de Sampdoria, qui n'a encore jamais entraîné en première division allemande, serait tombé d'accord avec le club anglais. Maintenant, il faut décider évidemment de l'indemnité de transfert entre le club de Sampdoria et de Brighton. Et donc, il y a plusieurs choses qui me perturbent. C'est que ce coach qui fait monter son club et qui est, rappelons-le, extrêmement jeune, hein, parce qu'il a 31 ans et qui est un petit peu la nouvelle perle des coachs allemands, et ben d'un seul coup part directement peut-être en première ligue après les négociations, sans passer par la case Bundesliga et tout ça. Et à chaque fois que je parle de chien, je pense au poodle évidemment et la politique pendant un moment de l'Angleterre par rapport aux États-Unis. Et je trouve que cette mode des coachs anglais, allemands, de vouloir systématiquement partir au Royaume-Uni alors qu'il y a des places extraordinaires en Allemagne, moi ça me fatigue au bout d'un moment. Ils n'ont rien prouvé, parce que c'était de la seconde division. Il avait tout pour l'année prochaine pour s'émanciper en Bundesliga et on l'annonce déjà à Brighton. Donc moi, ça me pertine un petit peu. Voilà.
Julien, tu confirmes son arrivée en Angleterre ?
C'est ça, ouais. Ça devrait être, je pense, réglé dans les 48 heures. Là. Effectivement, il n'était pas le premier choix. On sait qu'ils avaient d'autres choix devant lui, qui ne se sont pas faits pour diverses raisons. Mais je suis d'accord avec Polo, hein. Même du côté de Brighton, c'est un très, très, très gros pari, quoi. Mais bon, on verra bien. Il est né aux États-Unis d'ailleurs, hein. Il est arrivé en Allemagne à 2 ans, il est né à Houston, dans le Texas.
Et il a la double nationalité Allemagne et Suisse.
Et pour remplacer De Zerbi, Brighton avait essayé Farioli au dernier moment.
Ah, d'accord. Et donc, il avait déjà choisi l'Ajax.
Son accord à l'Ajax.
D'accord, c'est bien ça, l'homme de parole. Allons faire un tour à Rome, chez toi, mon cher Johan, où se déroulent les championnats d'Europe d'athlétisme, où se déroule la dernière chance pour Kevin Mayer de décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques. Bonsoir, Aurélien Tersin.
Salut, l'after.
Où en est-on?
C'est la hauteur qui vient de se terminer, donc la quatrième épreuve, et Kevin Mayer en reste à 1m96, 3 échecs à 1m99. Alors on peut dire qu'il est toujours dans les clous pour aller chercher les minima olympiques, 8460 points, mais il perd un tout petit peu de points, de chemin avec ce 1m96 à la hauteur. Il va falloir être costaud sur le 400 mètres tout à l'heure, c'est aux alentours de 22h20, et d'ailleurs le Stadio Olimpico, Johan le connaît certainement très bien, qui sonne creux malheureusement, et Kevin Mayer aime quand c'est un petit peu plus chaud. Il y a à peine 10 000 personnes dans un stade gigantesque comme l'Olympico, c'est pas terrible.
À tout à l'heure, Aurélie, hein, dans un instant, Fred nous explique que l'Allemagne et l'Espagne va arriver new look dans cet Euro avec un nouveau style qui va radicalement changer de celui qu'on connaît depuis le début du 21e siècle. Et puis Polo va nous parler d'un débat aujourd'hui qui agite l'Allemagne du football. Il concerne le capitaine Ilkay Gundogan. Restez avec nous, Génération After, spécial drôle de dame sur RMC, 20h32, à tout de suite.